Bonjour frères et sœurs. Voilà, bienvenue aussi à ceux qui viennent pour là les premières fois. Vous êtes les bienvenus au milieu de nous. L'Église est d'accord ou pas ?
Amen.
Amen. Amen. On va poursuivre notre réflexion qu'on a entamée déjà il y a deux dimanches, qui est sur le thème de l'adoration. Et on est parti de ce texte de Jean chapitre 4, où Jésus s'adresse à une femme samaritaine, va avoir une conversation avec elle et va finalement lui révéler quelque chose qu'il n'avait révélé jusque-là encore à personne. Le centre, le cœur de ce passage, de cet échange avec la samaritaine, conduit à l'adoration. Et aux yeux de Dieu, c'est extrêmement important. Jésus est fatigué du voyage. Évangile de Jean, chapitre 4, il est même épuisé parce que ce sont ses disciples qui vont aller lui chercher de la nourriture, lui reste à un puits, là, et il va faire la rencontre d'une femme qui vient puiser de l'eau. La conversation s'engage, et à un moment donné, pour gagner du temps, Jésus va parler avec cette femme, et au verset 20, cette femme va lui dire « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous ?» Dites, sous-entendu les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous avions vu, peut-être pour rappeler quand même quelques petits points, ce que nous avions vu, c'est que l'adoration selon le modèle de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, en quoi elle consistait ? En premier lieu, c'est un hommage, un rituel rendu à la divinité. Ça signifie montrer son profond respect, son admiration. C'est une vénération. Il existe plusieurs termes en hébreu, en grec, pour parler de ce mot que nous, on appellera rendre un culte. C'est rendre un culte. Comment, de quelle manière était-elle pratiquée ? Les termes hébreux et le terme grec, notamment le terme grec proskuneo, signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Il y a une dimension physique première dans la signification de l'adoration, puisque ça signifie se courber, s'abaisser, faire obéissance, tomber à genoux, tomber face contre terre. Voilà le sens premier de l'adoration. Elle a une dimension d'abord physique, qui est exprimée physiquement, où ceux qui adorent se mettent face contre terre. Ils s'aplatissent devant Dieu. Elle était aussi exercé sur la base de sacrifices qui étaient offerts. Sacrifices sanglants d'animaux innocents. On dira que c'était la façon de s'approcher du Dieu saint depuis la désobéissance volontaire de nos premiers parents, Adam et Ève, puisque avant leur désobéissance, il n'y avait pas de manière particulière, de protocole particulier pour s'approcher de Dieu. Parce que l'adoration nous parle quand même d'une façon de s'approcher de Dieu. De quelle façon nous devons nous approcher de Dieu. Et les choses étaient tellement simples, tellement naturelles. L'homme pouvait parler, quand je dis l'homme, la femme pouvait parler à leur créateur pouvait parler à Dieu, ils se rencontraient. On lit, on voit ça dans le livre de la Genèse, au début du livre de la Genèse. Il n'y avait pas de problème, de barrage particulier, de protocole particulier à respecter. À partir du moment où il y a eu cette désobéissance volontaire d'Adam et Ève, les choses se sont compliqué, tout c'est compliqué. Et à partir de ce moment-là, pour que l'homme et la femme puissent demeurer, entre guillemets, dans la présence de Dieu, enfin être acceptés de Dieu, il a fallu la base du sacrifice. Et ça, on voit ça dès le livre de la Genèse. Parce que Adam et Ève, après leur désobéissance, qu'est-ce qu'ils vont faire aussitôt après ? Qu'est-ce qu'ils font ? Vous vous souvenez ? Tu dis ? Oui, même avant. Tu dis ? Oui, ils découvrent qu'ils sont nus, oui. Et ils cachent leur nudité. Donc ils se cachent. Ils se cachent de Dieu, ils se cachent l'un à l'autre. Ils couvrent leur nudité avec des feuilles. Bien sûr, ça parle bien plus d'une nudité physique. Ils ont des choses à cacher. Et ils cherchent à arranger les choses pour paraître bien, l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est le principe, finalement, de la religion, qui établit tout un système de codes pour chercher à paraître bien devant Dieu, par un système de pratiques. Et puis, vis-à-vis des autres aussi, on cherche à paraître bien. On essaie de montrer la meilleure image qui soit. Mais qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va leur dire, vous retirez ça, parce que ça, ça ne tient pas devant moi. Ça ne tient pas, vous ne pouvez pas subsister, on ne peut pas subsister devant le Dieu qui est saint. Saint voulant dire séparé, tellement séparé des hommes, tellement pur. Alors Dieu va les couvrir, va couvrir leur nudité de peau d'animaux. Si il y a une peau où il y a des peaux d'animaux, ça veut dire quoi ? Il y a eu sacrifice. Il y a eu sacrifice. À la base, les animaux n'ont pas été créés pour être sacrifiés. Hein. Les animaux n'ont pas été créés pour être sacrifiés. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, Dieu avait dit, si vous prenez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. C'est une loi, de la même manière que si tu tombes du 10e étage, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas mourir. Si tu mets tes deux doigts dans une prise, on va demander à Jean à partir de quand on peut, voilà, où il y a je ne sais pas combien de volts, tu vas avoir des gros problèmes. C'est une loi. Si tu manges du cyanure, si tu avales du cyanure, tu vas avoir un problème. Ben c'est la même chose, même qu'il y a la loi de la gravité, il y a aussi la loi du péché, le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est comme ça. Et Dieu va couvrir leur nudité par le sacrifice d'une victime innocente. Plutôt que d'éliminer l'homme, c'est ce qu'ils méritaient. Ils ont fait ce choix en toute conscience et en toute lumière. C'est pour ça que c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Nous en subissons encore les conséquences aujourd'hui. En toute connaissance et en toute lumière, ils n'étaient pas dans l'ignorance. Il devait être foudroyé net. Il n'y avait plus d'humanité. Mais parce que, plus que tout, Dieu nous aime. Malgré notre péché, malgré notre responsabilité. Alors Dieu s'est pourvu lui-même. Et il a pris un animal innocent. Il a fallu que le sang innocent coule. Et c'est un principe pour s'approcher de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que le sang coule, le sang innocent coule. Et c'est le principe finalement de toute l'ancienne alliance. Pour s'approcher de Dieu, il fallait que le sang innocent coule. Et au travers, c'est comme ça que des milliers, des millions, des milliards d'animaux ont été sacrifiés pour le péché des hommes, pour les péchés des hommes, pour que l'homme puisse subsister devant Dieu, devant la face de Dieu. On découvre aussi une chose, c'est que sur la base de sacrifices offerts, il y a une dimension aussi de... Dans sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire sacrifice ? Quand on dit je fais un sacrifice là, ça veut dire quoi ? Ça coûte. Ça coûte. Ça coûte quelque chose. Ça a coûté à Dieu. Il ne voulait pas tuer ces animaux. Il les a créés, il les aimait. Et on voit, vous lisez le livre des Jonas, Dieu va prendre soin à la fois des hommes qui ne reconnaissent ni leur droite ni leur gauche par rapport à cette ville de Ninive, mais également les animaux. Il va même les faire jeûner. Tout le monde va jeûner. On sait, et on le verra plus loin, que ça va coûter aussi à Jésus. Au Père, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il a sacrifié son Fils unique, afin que nous puissions devenir agréables à Dieu, acceptés de Dieu, pardonner nos péchés. Ça coûte. Mais ça coûte aussi pour les adorateurs, ceux qui veulent adorer. Il y a quelque chose qui coûte. Et on a un très bon exemple. L'adorateur, c'est le roi David qui dira, alors que Dieu lui demande d'offrir un sacrifice dans 1 Chronique 21, on peut lire par exemple à partir du verset 21, lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air, de l'endroit où il était, et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, David était roi, hein, cède moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Voilà des notions importantes. Dans l'adoration, on ne peut pas adorer au travers de ce que l'autre fait. L'adoration, c'est moi personnellement, c'est ce que j'offre à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu attend quelque chose, attend que ça vienne de moi et que ce soit quelque chose, quelque part, qui me coûte. On ne peut pas adorer par procuration. Ce qu'on avait vu également, c'est que l'adoration, elle était réservée à Dieu seul et à son Christ, en exclusivité. Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 20, versets 4 et 5, « Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses d'en haut, d'en bas ou dans le fond, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, un Dieu d'exclusivité. » Et puis Jésus va reprendre quand le diable veut le tenter. Matthieu 4, le diable le transporta encore sur la montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » C'est ça que le diable voulait, c'est encore aussi ça qu'il veut de la vie des hommes et des femmes. Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il reprend un passage du Deutéronome 6,13 « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est exclusif. Il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Et on avait vu que c'était aussi ce qui faisait la différence, une des différences avec la louange qui est aussi voulue de Dieu. Mais la louange peut être à la fois adressée à des hommes pour ce qu'ils ont fait, comme elle peut être adressée à Dieu. L'adoration n'est qu'à Dieu seul. L'adoration n'est qu'à Dieu seul. L'adoration, à la différence de la louange, l'adoration peut être véhiculée au travers des mots, des paroles, au travers de la musique, mais elle va bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. La louange se fait par nos paroles. Le fruit de lèvres qui confesse son nom, soit au travers du chant, de la musique ou de nos paroles. La louange rentre dans une autre dimension, elle peut passer par la musique, elle peut passer par le chant, mais elle va tellement au-delà. La louange, elle est, puisqu'elle est exclusive, exclusivement réservée à Dieu, elle est pour son plaisir à lui, pour son plaisir à lui seul et non pour le nôtre. Et non pour le nôtre. Le but, ce n'est pas dans le culte, parce que c'est ça finalement quand nous rendons un culte à Dieu. C'est le terme qu'on a utilisé, qu'on appelle, on dit que c'est un culte. On dit que c'est le culte aujourd'hui, le culte du dimanche. Pas parce qu'on le proclame que ça l'est. C'est dans quelle disposition nous venons, qu'est-ce que nous sommes venus offrir à Dieu finalement. Est-ce que nous sommes venus voir d'autres offrir un culte à Dieu et dire nous avons passé un bon culte? Est-ce que nous sommes venus pour vivre des choses? Ah, c'était fantastique, ça m'a plu, je me suis senti bien, etc. Ça n'est pas incompatible, mais ça n'est pas le but premier. Le but, c'est de faire plaisir à Dieu. Le but, c'est pas de rechercher ce qui me plaît à moi. Parce que nous avons chacun des choses qui nous plaisent, c'est vrai ou c'est faux? Dans tous les domaines. Dans le domaine des couleurs, dans le domaine des vêtements, dans le domaine de la nourriture, dans le domaine... Nous avons des goûts, c'est vrai ou c'est faux? Il suffit d'aller chez chacun d'entre vous et vous regardez que c'est spécifique. C'est différent chez les uns et chez les autres. Et dans une même maison, d'une chambre à une autre, c'est différent. D'une table à une autre, c'est différent. Et même quand vous avez une même voiture, à l'intérieur, c'est différent. C'est différent, c'est agencé différemment. C'est normal. Mais dans l'adoration, le but, c'est pas nous. Qu'est-ce que j'ai envie? Comment je ressens? L'estimation, c'est pas nous. L'estimation, c'est Dieu. Je suis venu pour te faire plaisir, Seigneur. On vient pas. On a un héritage très fort du catholicisme romain. Et on va, dans l'Église catholique romaine, on va au culte. Mais dans les autres religions aussi. On peut aller à la mosquée. On peut aller à la synagogue. On peut aller au temple bouddhiste. Comme on peut aller à un spectacle. Comme on peut aller au cinéma. Je veux dire, même comme on peut aller au restaurant. Alors, c'est quoi le menu? Non, ça, je veux pas. Ça me plaît pas. Non, ça, non. Ça pourrait être un peu plus chaud, un peu plus froid. Non, là, le but, c'est qu'on vient pour l'adorer et pour chercher à lui plaire. Comment es-tu venu ce matin? Dans quelle disposition? Est-ce que tu es juste venu assister à un culte? Assister à une réunion, être présent? Ou offrir un culte à Dieu? Parce que ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs. Dieu n'a que faire que les chaises soient remplies ou pas remplies. Ce qui l'importe, c'est que ceux qui soient là aient compris le sens de leur vocation, La vocation, c'est d'adorer Dieu, de venir pour s'offrir à lui, avec ce que nous sommes, non pas ce que l'autre a. On ne peut pas dire, oui, mais lui, il parle mieux que moi, lui, il est ceci. Non, David dit, non. Moi, c'est quelque chose que je veux offrir de moi-même. Pourtant, il était roi et tout lui appartenait, quelque part. Mais il dit, mais non, je veux le payer. C'est quelque chose qui vient de moi, je veux t'offrir quelque chose. Qu'as-tu à offrir au Seigneur ? C'est ça l'adoration. Est-ce que c'est quelques restes ? Il n'y a pas de passivité dans la relation, dans la vie avec le Seigneur. Ça n'intéresse. Ça, c'est la religion. La religion se satisfait très bien. On a été à notre culte, on a eu notre réunion, c'est très bien. Tout le monde est content. Enfin, nous sommes, pouvons être contents. Dieu non. Dieu non. Le but des adorateurs, les chrétiens qui sont appelés à adorer, c'est de faire plaisir à Dieu. C'est ça. Dans tout ce qui est fait, dans les services que nous faisons, c'est de chercher à faire plaisir à Dieu. Ce qui a été fait ce matin, au travers de la louange, au travers des chants, je crois que Dieu s'est réjoui. Nous sommes réjouis. Ça facilite. Ça n'est pas l'adoration, mais ça facilite. Ils ont contribué à nous focaliser sur le Seigneur, à nous amener à son contact. Après, ils ne peuvent pas nous emmener plus loin. Eux, c'est leur part aussi d'adorer Dieu. Mais ils ne peuvent pas nous emmener plus loin. C'est à chacun de s'offrir à Dieu, d'offrir son sacrifice de louange, de dire « je te donne ma vie, je te donne mon cœur », parce que finalement, c'est ça que Dieu veut. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ça que Dieu veut. Donne-moi ta vie, quel que soit ton âge, que tu viennes depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans, ou que tu viennes pour la première fois, ce que Dieu veut, ce que Dieu recherche, c'est ton cœur. Tu vas me dire, oui, mais peut-être, moi je viens, ça fait pas très longtemps que je viens, on va aller progressivement. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 14 ? Il dit, quand vous vous retrouvez en assemblée, comme nous le sommes ce matin, le but, s'il y a une parole qui est apportée, un charisme, une prophétie, une parole de la part de Dieu, comme nous avons eu ce matin, c'est que celui qui vient pour là les premières fois dise, mais soit interpellé dans son cœur et dise, mais Dieu est réellement au milieu de nous. C'est pas simplement un rassemblement comme ça, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Tu me convaincs de qui tu es, tu me convaincs de qui je suis, tu me convaincs de ton amour. Tu me révèles que tu me connais, c'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Vous relirez ce passage. Quand Jésus va lui révéler que celui avec qui elle est n'est pas son mari. Il va dire, mais je vois que tu es prophète. Il exerce une parole de connaissance. Cette femme est dévoilée, mais elle se dit, mais tu, ce ne serait pas le Christ. Elle est convaincue de la divinité de Jésus, de sa messianité. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle abandonne sa cruche, son mode de vie passé. Et qu'est-ce qu'elle fait tout de suite ? C'est qu'elle va vers son peuple, au village des Samaritains, pour dire qu'elle a rencontré quelqu'un qui probablement est le Christ, parce qu'il lui a révélé tout ce qu'elle avait fait, ce qu'elle était. Ne serait-ce pas le Christ ? Et Paul dit aux Corinthiens, c'est la même chose. Convaincus que Dieu est réellement présent là, qu'est-ce qu'ils feront ? Il adorera Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre très longtemps. Si le Saint-Esprit te convainc que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il t'aime, qu'il a donné sa vie pour toi, parce que tu es perdu, et qu'il veut te sauver, et qu'il est l'unique sacrifice, unique, suffisant, éternellement suffisant, alors donne-lui ton cœur, parce que à ce moment-là, tu vas accomplir un véritable acte d'adoration. C'est ça que Dieu veut. Tu te demandes, oui, mais l'adoration, ce n'est pas des paroles. Ça peut s'exprimer par des paroles. Mais c'est ta vie, c'est ton cœur. Que cette parole résonne en toi. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ce qui intéresse Dieu. Il ne veut pas des miettes, il ne veut pas simplement ton assistant. Il veut que tu lui donnes ta vie. Nous avions vu que l'adoration, elle est pour le plaisir de Dieu et non pour le nôtre. Mais le nôtre, à ce moment-là, où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qui devient notre plaisir ? Parce que nous avons notre propre plaisir, nous aussi. Notre propre désir, nos façons de penser, de voir, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on le laisse au pied du Seigneur et on l'adore. On le laisse au pied du Seigneur et on l'adore. On le laisse au pied du Seigneur et on l'adore. On ne peut pas l'adorer avec notre propre chair, avec nos propres désirs. Dans l'adoration, on laisse tout de côté. Le moi reste là. C'est plus moi je. Moi je pense, moi je veux. Le je, il reste là. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'adorateur, il dit non, moi je suis là pour toi, simplement pour toi. C'est quoi ton plaisir ? C'est quoi ton désir ? Je m'offre à toi. Jésus, dans le passage que nous avons vu avec la Samaritaine, dans Jean 4, va définir les nouveaux codes de l'adoration, selon la Nouvelle Alliance. D'abord, quant à ceux qui désormais sont appelés à adorer, ceux qu'il appelle les vrais adorateurs. Jésus, on l'avait vu, nous a montré les étapes nécessaires à franchir. Avant de lui parler de l'adoration, il lui a d'abord fait prendre conscience de son propre péché. Avant de parler d'adoration, il faut d'abord parler de péché, de notre péché. Jésus a tout pourvu, il a réglé tout. Mais il faut que ce péché-là, nous l'abandonnions au Seigneur. Nous renoncions à notre mode de vie passé. On ne peut pas adorer et continuer de pécher, pratiquer le péché, ce n'est pas possible. Ce sont des simagrées. Ensuite vient l'adoration, et elles peuvent dire très rapidement. En s'adressant à une femme samaritaine, étrangère, au peuple juif, il montre par là que l'adoration vraie n'est plus la chasse gardée d'un seul peuple, du peuple juif. Selon la vision de Jean qu'il a de ce qu'il se fait, se fera au ciel, Apocalypse 7, versets 9 et 12, après cela je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, tous au même niveau, et des palmes à leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. C'est pas un hasard si c'est à une femme samaritaine, anciennement pécheur, qui a changé de mode de vie et qui l'a montré radicalement en abandonnant son mode de vie et en allant annoncer la bonne nouvelle de Jésus à son peuple, qu'aujourd'hui ça n'est plus une affaire simplement d'un seul peuple, mais que Dieu veut généraliser ça à des hommes, des femmes de toute tribu, de toute langue, quelle que soit leur langue, quelle qu'ait été avant, parce que cette femme avait une religion, hein. Les samaritains, ils avaient une religion, hein. Quelle qu'ait été ta religion ou la culture religieuse dans laquelle tu es tiré. Jésus nous explique que ce que Dieu attend, ça n'est plus de la religion. C'est au-delà des religions. Le fait de s'adresser à cette femme samaritaine nous montre également que ça n'est plus une affaire de spécialistes, ni même au sein du peuple de Dieu, comme ça l'était avec la tribu de Lévi que Dieu avait choisie pour adorer. Il n'y a plus de corps d'élite au milieu du peuple de Dieu, mais tout son peuple, l'Église dans son ensemble, est appelé à ce glorieux ministère. Amen. Ensemble, comme nous sommes, quand nous sommes réunis, Apocalypse 1:6, il a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il a fait de nous un royaume, un endroit où Dieu règne, des sacrificateurs, des prêtres. Chacun d'entre nous, nous sommes des prêtres. Mais un prêtre, il a quelque chose à offrir. Et Dieu veut t'introduire là-dedans. 1 Pierre 3, verset 5, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Amen. Nous sommes un saint sacerdoce, un peuple de sacrificateurs qui offrons des victimes maintenant spirituelles, agréables à Dieu, c'est intéressant, mais par Jésus-Christ. C'est ça qui change. Par Jésus-Christ qui, lui, est le sacrifice parfait. Au travers du sacrifice parfait de Jésus, nous pouvons nous présenter devant Dieu et offrir notre louange, offrir notre vie. Autrement, ça ne sert à rien. C'est uniquement au travers de Jésus que cela est possible parce que lui a tout accompli. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui nous permet de devenir juste devant Dieu, de devenir des adorateurs, des sacrificateurs qui officions dans sa présence parce que le voile a été déchiré. Et c'est une petite parenthèse, le rôle des ministères dons selon Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, c'est pas de faire leur show, simplement d'exercer leur ministère, mais c'est de, selon verset 12, Éphésiens 4, 12, ils sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, le ministère de l'Église, afin qu'elle rentre, entre autres, dans cette dimension d'adorateur. Et ils sont là pour contribuer à ça. Que chacun prenne conscience de ça pour rentrer dans sa vocation et être agréable à Dieu. Parce que Dieu s'est choisi un peuple pour son propre plaisir. Bien sûr que c'est merveilleux d'être le peuple de Dieu, n'est-il pas vrai? Mais Dieu s'est choisi un peuple pour son propre plaisir. Quand nous décidons d'avoir des enfants, est-ce que c'est pour eux? Quand nous décidons d'avoir des enfants, est-ce que c'est pour se dire « Ah bah tiens, je vais leur faire plaisir, dites-moi. » Ben non. C'est pour notre plaisir, c'est vrai ou c'est faux? Après, on leur fait plaisir. On attend aussi qu'ils nous fassent un peu plaisir. Mais c'est pour notre plaisir. Dieu t'a créés comme Dieu avait créé Adam et Ève pour son propre plaisir. Et Dieu nous a recréés en Jésus afin de nous avoir avec lui pour son propre plaisir. C'est ça ta vocation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que... Mais cherche le plaisir de Dieu. Lis sa parole. Cherche comment tu peux être agréable à Dieu et pas simplement quand tu es dans l'église. Mais quand tu es dans tous les domaines de ta vie, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu, pour le plaisir de Dieu finalement. Dans ta famille, cherche à ce qui peut faire plaisir à Dieu dans ton comportement, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que travailleur, en tant qu'employé, en tant que patron, en tant que salarié, en tant qu'indépendant. Qu'est-ce qui peut être agréable? Qu'est-ce qui peut faire plaisir à Dieu? À l'enfant, quand tu es enfant, à l'école, au milieu de d'autres, quand tu es jeune, adolescent, qu'est-ce qui peut faire plaisir à Dieu? Comment je peux me comporter? Quand tu ne travailles plus, que tu as du temps, c'est pas simplement dire « enfin du temps pour moi », mais est-ce que le raisonnement ne serait pas « enfin du temps pour toi, Seigneur ». Enfin, plus de temps pour toi, parce qu'il ne faut pas attendre d'être à la retraite pour donner sa vie au Seigneur, pour consacrer sa vie au Seigneur, mais dire le temps qu'il me reste, et ça peut être coupé à n'importe quel moment. J'ai plus de disponibilité, j'ai plus de temps, mais ce temps, Seigneur, je veux qu'il soit pour toi. Je veux qu'il soit pour ton plaisir. Peut-être j'ai passé beaucoup de temps pour moi à rechercher ce qui m'intéressait. Je me suis battu pour ce qui me plaisait, y compris dans l'église. J'en ai fait mon combat personnel. Mais est-ce que j'ai cherché réellement ce qui te plaisait à toi? Et pas simplement au travers de ce que nous faisons, mais la mentalité qui plaît à Dieu. Quel est mon état d'esprit? Quel est mon état d'esprit? Parce que Dieu voit ça. Tu vois pas simplement ce que nous faisons, mais quel est mon état d'esprit? Quelle est ma mentalité? Avec quelle mentalité je fais les choses? Dans quel but je le fais? Est-ce que je le fais pour qu'on me voie, pour qu'on sache, pour que ma conscience soit apaisée? Est-ce que je le fais pour... Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? J'ai besoin de m'occuper? Je le fais par rapport au regard de l'autre, pour qu'on me fiche la paix, en me disant, ben ça y est, on va arrêter de me dire, ben tiens, faut qu'on serve. Moi, ça y est, j'ai mon service. Ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le servir, j'ai envie de lui être agréable? On voit également qu'il avait dit que ce serait... Dieu dit... que je cherche des adorateurs qui adorent le Père en esprit. Pourquoi en esprit? Tout simplement parce que Dieu est esprit, que l'adoration qu'on doit lui adresser doit l'être également, parce que Dieu est spirituel. Et que l'adoration est d'abord quelque chose de profondément spirituel, parce que Dieu est esprit. Et l'adoration qui va plaire à Dieu a une dimension spirituelle, même si elle s'exprime au travers de ce que nous sommes. Et que si nous offrons et si nous aimons Dieu, nous adorons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, etc., alors il y aura une dimension psychologique, pourra l'exprimer au travers de nos sentiments, au travers de nos émotions, au travers de notre corps, de l'expression corporelle. Mais ce n'est pas ça l'adoration. Parce que le Dieu que nous adorons est spirituel. Nous ne devons pas avoir besoin de certaines conditions. Et faites attention, frères et sœurs, de ne pas vous laisser conditionner. Parce que tout veut nous conditionner. La forme, les formes sont bien. Mais c'est Dieu l'essentiel. C'est lui le centre. Paul et Silas n'ont pas eu besoin d'ambiance particulière. Dans une prison, le dos ensanglanté, au milieu de la boue, au milieu de brigands, de gens qui vociféraient, ils ont adoré Dieu. Mais ils ont été capables de le faire aussi au milieu de l'assemblée. Je pense qu'ils préféraient le faire aussi au milieu de l'assemblée. Mais ça ne changeait rien du tout. Ne dépend pas des circonstances. Ne dépend pas de l'ambiance. Sois capable d'adorer Dieu dans différents contextes. Mais n'associe pas l'adoration à un seul contexte. Parce que quand le contexte ne sera plus là, tu n'auras plus d'adoration. L'adoration, c'est Dieu. L'adoration, c'est Dieu. C'est ta relation entre toi et lui. Je voudrais m'arrêter sur ce point en vérité. Il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En vérité, c'est, et ça c'est fondamental, c'est sur la base du sacrifice unique et parfait et suffisant de Jésus-Christ. Parce que cette femme va dire, nous nous adorons sur cette montagne, vous vous adorez à Jérusalem. Effectivement, Jésus ne va pas contester le fait qu'ils adoraient. Que les Samaritains adoraient, du pas, t'es une menteuse. Non, elle adorait. C'était aussi un peuple d'adorateurs. L'adoration n'est pas le propre du peuple de Dieu. Simplement, ce que Dieu veut, ce sont de vrais adorateurs en vérité. Et la véritable adoration, elle passe au travers du sacrifice unique de Jésus, parce que c'est toujours au travers d'un sacrifice. Mais Jésus a été sacrifié pour nous. Amen. Quel sacrifice extraordinaire. La scène parle de ça. Il persévérait, acte 2, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières, mais aussi dans la scène, dans la fraction du pain. Il persévérait là-dedans, se souvenant du sacrifice de Jésus. Et toujours ça en tête. Quand tu adores, quand tu te tiens devant Dieu, quand tu sers Dieu, c'est une grâce extraordinaire parce que Jésus s'est sacrifié. C'est au travers de ce sacrifice que tu peux toi venir librement dans sa présence et lui être agréable. C'est simplement au travers de ça. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. tu ne le mérites pas, tu ne le mériteras jamais. Mais lui, il l'a mérité. Et parce qu'il l'a mérité, en croyant en lui, tu deviens justifié. Et tu peux. C'est extraordinaire. C'est un cadeau. Le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit. C'est un pléonasme. Philippiens 3, verset 2, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est-à-dire aux faux religieux, finalement. Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. La circoncision n'a aucun problème, c'est la chair. Que ce soit circoncis ou pas circoncis, ça ne pose aucun problème. Mais ce qui est important, c'est de quelle manière tu rends ton culte. Et le culte qui est agréable à Dieu, c'est le culte qui est fait, non en nous appuyant sur notre arrière-plan, notre background, ce qu'on sait faire, sur notre religion, sur ceci, mais simplement sur Jésus-Christ. C'est uniquement ça. Et puis, ça parle aussi, en vérité, de ce qui est authentique, de ce qui est sincère. La Bible dit dans Hébreux 10, « Approchez-vous de Dieu, versets 19 à 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère. » C'est important d'être entier, en fait, pour Dieu, parce que Dieu mérite ça. Dieu nous a aimés entièrement. Il a donné son Fils unique complètement. Il s'est donné complètement. Et Dieu attend en retour que nous donnions complètement, pas à moitié. Dieu veut un cœur entier. Dieu veut un cœur sincère. J'insiste, cette parole, elle est pour plusieurs. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mon fils, ma fille, redonne-moi ton cœur. Le Seigneur te parle ce matin, parce que c'est ça qui l'intéresse. Et puis, selon un principe, on terminera là, un principe qui est fondamental. Quel sacrifice offrir à Dieu ? Bien sûr, celui de Jésus, mais aussi un autre sacrifice qui va plaire à Dieu. La Bible dit, et c'est ce que le prophète va dire, Samuel, à Saül, que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'obéissance. Nous sommes facilement prêts à faire des sacrifices, offrir ce qui nous plaît, même si ça nous coûte, dans la direction qui nous plaît. Mais ce qui prend plaisir à Dieu, la véritable adoration finalement, le sacrifice qui va plaire à Dieu au travers de Jésus, et avec sincérité, c'est le sacrifice qui est fait en obéissance. C'est offrir à Dieu ce qu'il veut que nous lui offrions. Qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Qu'est-ce que Dieu te demande ? Qu'est-ce que Dieu veut de toi ? Pose-toi la question. Ne pose pas la question de ce que le voisin, Dieu, ce que Dieu demande au voisin, mais toi personnellement, qu'est-ce qu'il attend de toi ? C'est ça qui plaît à Dieu. Tout le reste, tu le laisses et tu l'offres au Seigneur. C'est ça la véritable adoration. L'adoration de Jésus, elle s'est manifestée de quelle manière ? À quel endroit l'adoration de Jésus s'est-elle le mieux manifestée ? Jette ses manées. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, j'ai pas envie, je veux pas que ça se passe comme ça. Il y a un autre moyen. Moi, je veux que ça se passe comme ça, je pense que c'est comme ça. Et il reprend, il y a une lutte terrible. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Là, c'est terrible, c'est pas simplement de dire le steak, tu le veux saignant ou pas trop saignant. Non, il y a des choses. Dieu attend il attend des choses de nous. Il attend des choses de toi personnellement, quel que soit ton âge. Et ce qui plaît à Dieu, c'est que tu abandonnes ce qu'il ne veut pas et que tu fasses ce qu'il veut. Ça, c'est la véritable adoration, l'obéissance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes et que tu l'as prouvé, que tu l'as payé de ta vie, de la vie de ton fils Jésus. Et en échange, c'est vrai, Seigneur, que tu ne nous demandes pas des choses que nous ne pourrions pas faire. Tu as tout accompli pour ça. Mais ce que tu attends de nous, c'est notre cœur, c'est notre vie, c'est de la sincérité, c'est de l'engagement, c'est de la vérité. C'est que nous considérions l'œuvre de ton Fils Jésus, mais également, Seigneur, que nous comprenions que ce que tu attends de nous, en sacrifice, en adoration, c'est notre obéissance, c'est mettre notre moi, nos conceptions, notre volonté propre au pied de ta croix, afin d'être libre pour t'adorer, et te laisser faire en nous ce qui te plaît. Merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur, de bénir les personnes qui sont là pour les premières fois, de te révéler à elles de manière personnelle, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Amen.